commencer avec le quart d'heure de Poitevin entamé et une assistance peu nombreuse, mais qui se complète.
De qualité,
effectivement. Ce qui est assez intéressant, en fait, parce qu'apparemment, moi, je n'ai pas vu à titre personnel, mais c'est que le festival a été fréquenté de manière assez intéressante, des films, etc. Et que là, c'est presque... Là, il y a un phénomène d'ordre sociologique, je pense qu'à analyser, c'est très intéressant. On est victime d'une double discrimination, d'une certaine manière. D'une part, parce qu'on va traiter d'un sujet, enfin, d'une zone géographique éloignée d'une trentaine de kilomètres... C'est quand même compliqué, donc Châtellerault. Et effectivement, depuis, j'allais pas dire depuis la nuit des temps, mais depuis de nombreuses années, il y a vraiment une forme de fracture culturelle entre ces deux zones géographiques. Et puis, finalement, on va traiter le mouvement ouvrier qui a été un peu travaillé, enfin, qui a été, comment dirais-je, décrite par. Monsieur Pudal, hier soir, hein, je n'étais pas à la conférence, mais je pense qu'il l'a fait avec. Je connais un petit peu, donc je pense qu'il l'a fait avec beaucoup de tact et d'intelligence. Voilà. Donc, vu qu'on doit rendre la salle à 10h30, moi je vais essayer de faire court en remerciant d'une part les gens qui sont déplacés, en remerciant aussi. Et surtout, j'allais dire, les militants, qu'ils sont tous, hein, tous les trois, qui sont encore, d'une certaine manière, qui sont encore très investis pour certains, de ce Châtellerault des années 68, hein, puisqu'on a une période assez... on a choisi de faire une période assez large, hein, de quelques mois avant la mai 68 aux années qui vont suivre. Et donc, il est vrai que c'est rare que l'on puisse entendre des militants, des syndicalistes de Châtellerault à Poitiers, donc c'est vrai que je le souligne, mais c'est vrai que c'est important et je suis très heureux qu'ils soient là à mes côtés. Ce que je vais vous faire moi très rapidement, c'est une présentation du Châtellerault-Day. Je reviendrai que très, très partiellement sur les événements de mai 68 puisqu'ils seront d'une certaine manière décrits par les témoignages individuels. Insister sur deux choses, donc la fracture, la différence nette de perception et de réalité de ce mai 68 entre Poitiers et Châtellerault. Poitiers, bon, on ne décrit plus, mais effectivement, c'est une ville qui déjà à l'époque était d'ordre tertiaire, avec une faible industrie, une démographie galopante dans les années 60-70. Châtellerault aussi, mais Châtellerault se détermine bien plus par son industrie qui est durablement enracinée depuis le début du 19e siècle, et même peut-être avant. Et il est vrai que, y compris dans les commémorations, un certain nombre d'initiatives autour de mai 68, on insiste beaucoup, à tort ou à raison, sur ce mai 68 étudiant, ce mai 68 souvent parisien, enfin vu par le prisme des barricades. Effectivement, c'est une réalité, mais le mai 68, c'est aussi, surtout et beaucoup vécu dans le monde des entreprises, avec des réalités assez différentes de par la sociologie et de par ces militants qui n'étaient pas à l'université, n'avaient pas du tout les mêmes problématiques et ni les mêmes aspirations. Alors Châtellerault, dans les années 60-70, ou Châtellerault-Est, c'est une zone géographique assez paradoxale qui se caractérise par différentes choses. Et surtout par une mutation économique et industrielle d'importance. Il y aura peut-être des précisions qui seront apportées au cours du débat, mais sur le plan économique, de la fin des années 50 à la fin des années 60, on assiste quand même à la fermeture de plusieurs gros établissements. Donc je citerai l'usine Rocher de ce nom qui ferme ses portes en 58. Il y a le camp de Saint-Ustre, camp américain de Saint-Ustre qui ferme en 67, qui a employé jusqu'à 900 salariés à un moment donné. En 67, il n'en compte que plus que 700. Et surtout, la manufacture d'armes de Châtellerault, créée en 1819, qui a employé jusqu'à 7000 salariés au début du 20e siècle et qui en employait encore à sa fermeture, enfin quelques mois avant sa fermeture, plus de 1000. Donc c'était une entreprise qui avait 2500 salariés dans les années 50, qui impose une culture, une façon de vivre, j'allais dire, un peu au Châtellerault-Day. Et ces entreprises la ferment les unes après les autres, donc ce n'est pas sans... certains dommages, y compris auprès des sous-traitants. Mais paradoxalement, et dans le même temps, on a un certain nombre d'entreprises qui, par le fait des lois de décentralisation de l'époque, vont s'implanter avec un certain nombre d'aides étatiques à partir du début des années 60, qui vont aspirer une partie de la population, une partie du salariat qui va pouvoir migrer de ces anciennes entreprises à ces nouvelles entreprises plus modernes, plus techniques. Mais dans les faits, va surtout agréger des salariés qui sont des ruraux issus du petit commerce, issus du milieu paysan. Et tout cela va donner une nouvelle texture au Châtel-Rodez. Donc je peux citer un certain nombre d'entreprises qui vont se créer dans ces années 60. Je vous passe les dates. Mais il y a la Société française d'équipement pour la navigation aérienne, la SFENA, la SOCHATA. L'entreprise Jagère, donc on va avoir un écho tout à l'heure, Merceron, Mesque, le Galus, etc., etc. Beaucoup d'entreprises qui vont employer jusqu'à plusieurs centaines de salariés et qui vont reconfigurer complètement le Châtel-Rodez. Alors, cette nouvelle population ouvrière va aussi avoir un certain nombre de nouvelles aspirations que mai 68, d'une certaine manière, va révéler, mais qui dans les années qui vont suivre, on va s'en rendre compte avec un peu plus de force. Cette nouvelle population est plus féminisée et moins qualifiée, vit davantage la précarité, le terme est déjà employé à l'époque, et ces modes de combativité, enfin on assiste réellement à une nouvelle forme de combativité, on laisse d'une certaine manière, dans ces années 67, 69, 70, la grève, traditionnelle, la journée d'action, qui est quasiment un paradigme qui s'installe dans les années 50, pour des grèves beaucoup plus radicales, beaucoup plus longues, qui seront aussi réprimées d'une certaine manière, mais qui changent complètement la figure du combat social. Pour mémoire, à la manufacture d'armes de Châtellerault, bien fréquemment, en dehors de mouvements collectifs, dans les années 50, 60, y compris même pendant la période d'annonce de la fermeture d'établissement, les grèves sont très cadrées, peuvent durer qu'une demi-heure, effectivement, avec un taux de participants très très important, mais on est dans un mouvement très discipliné, très très cadré. Les nouveaux mouvements qui apparaissent dans le sillage de mai 68 donneront un peu de fil à retordre aux syndicalistes qui avaient vécu les années 50-60, et on a une phrase que j'ai retrouvée là, cet après-midi, qui tombait à pic d'une certaine manière, du secrétaire de l'Union départementale CGT de l'époque, qui finalement avait quand même une sensibilité à tout ce qui se passait, mais parle, lui, de combativité, de colère. C'est très intéressant, montrant les changements de pratique. Les effets de cette combativité seront, et de mai 68 bien évidemment, on assistera à une syndicalisation très importante dans les années qui vont suivre, d'ailleurs très importante au regard même des chiffres, si on fait des comparaisons au niveau national, c'est-à-dire que dans la Vienne et dans le Châtel-Rodez, il y a un très fort taux de syndicalisation dans ces années 70, dans des proportions bien plus importantes qu'ailleurs. Syndicalisation qui bien sûr se voit à la CGT, qui était le syndicat quasiment unique, dominant du Châtel-Rodez, mais qui donne aussi à la CFDT, qui on peut pas dire qu'elle était moribonde, mais c'est vrai, par exemple à cette table là il n'y a pas de syndicaliste CFDT pour raison, puisqu'il y avait très peu de syndicalistes de la CFDT à cette époque là il y a d'autres raisons aussi sur lesquelles on pourra revenir aussi, mais ces combats-là permettront à la CFDT et à FO d'apparaître dans le paysage châtelrodais, alors qu'avant, ils étaient quand même très, 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 très faibles. Bien sûr, et puis création aussi d'une nouvelle entité, là, c'est la section syndicale entreprise qui apparaît avec force, un certain nombre de nouveaux comités d'entreprise, etc., etc. Bien sûr, le corollaire, c'est la répression importante. Il ne faut pas croire que le rapport de force est acquis pour une bonne fois pour toutes. Certains témoignages le montreront tout à l'heure. Effectivement, la réaction, le patronat n'est pas aucunement absent du terrain aussi. Donc c'est vrai que pour un certain nombre de syndicalistes, l'après 68, enfin, 68 c'est une chose, et l'après sera aussi assez difficile. Alors moi j'ai déjà presque trop parlé, je vais laisser la parole aux invités et à ceux qui vont faire vivre le débat ce soir. J'ai à ma droite Annick Lecomte qui va nous raconter du moins la vie de l'entreprise Jagère dans ses premiers mois, dans ses semaines de mai 68, et puis après, puisque pour vous ça a été un démarrage, puis après je présenterai au fur et à mesure les intervenants. 10 minutes, 12 minutes, peut-être moins, et puis vu le nombre de personnes dans la salle, je pense qu'on pourra faire de l'échange et des questions. Je vous laisse la parole, on vous remercie.
Appuyer sur le bouton, ça marche. Allez. Bonjour, donc effectivement, moi je suis rentrée chez Jagère en décembre 67, c'est-à-dire qu'il y avait à peine 6 mois, 6 mois après, on se mettait en grève. Donc Jagère, c'était une usine, je vous le dis, vous connaissiez peut-être pas, maintenant ça s'appelle Magneti Marelli à Châtellerault, donc, et c'était une usine d'équipement automobile, de tableaux de bord, de contours, de montres, voilà, c'était de... Et d'ailleurs, ça continue toujours, ils continuent toujours à faire de l'équipement automobile. Maintenant, c'est plus vers l'électronique. Donc, effectivement, en 68, on n'a pas la prétention d'avoir démarré la grève au premier jour en même temps que les étudiants. Mais on a fait quand même une grève très importante puisqu'on est parti du 26. Si je ne dis pas de bêtises, du 27 mai au 12 juin. Donc ça faisait 15 jours, quand c'était la moyenne, apparemment la moyenne des entreprises ont fait à Châtellerault à peu près 15 jours de grève. Donc c'était difficile parce que... c'était difficile parce que c'était nouveau. On était beaucoup, enfin, c'était une entreprise, on était à 80, 90, plus de 85% des femmes et il y avait très peu de cadres. On était donc des ouvrières et donc c'était nouveau pour nous. Hein. Et alors, on était très. Enfin, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la création d'organisations syndicales. Et donc, on s'est lancé comme tout le monde et on a occupé, nous aussi, l'entreprise et on fermait les portes et on couchait dans l'entrée. Bon, alors, on était très loin dans notre... Enfin, souvent, on nous parle toujours, enfin, à la télé, à la radio, ils parlent toujours des grèves des étudiants, n'est-ce pas, qui envoyaient des pavés sur les CRS. Mais nous, on était à 10 000 lieues de tout ça, puisque nous, notre problème, c'était... des augmentations de salaire, c'était des congés supplémentaires et les conditions de travail. Parce qu'il faut dire quand même qu'à l'époque, c'était donc dans l'usine, il y a toujours maintenant encore du travail au rendement. Mais il y avait beaucoup d'entreprises, il n'y avait pas de pause, même pas. Et c'était, moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était 10 heures par jour, c'est-à-dire 7h midi, 2h, 19h le soir, plus 5 heures le samedi matin, c'est-à-dire qu'on faisait 55 heures par jour, par semaine. Donc, ce qu'on voulait, c'était réduction du temps de travail et les salaires, parce que c'était le grand point à l'époque. Alors, évidemment, ça paraissait utopique parce qu'on demandait des très grosses augmentations de salaire. Mais quand on voit ce qu'on a obtenu, ça a été énorme, puisqu'on a obtenu, le SMIC est passé à 3 francs, je ne dis pas de bêtises, c'était bien les nouveaux francs, de l'époque, 3 francs de l'heure, c'est-à-dire que mon salaire horaire est passé en janvier 1968 de 2 francs 50 et à la fin de l'année, j'étais à 3 francs 09, c'est-à-dire que ça fait plus de 20% d'augmentation. Alors, c'était énorme. En plus, on a obtenu... Alors, je vous dis ça chez Jagère, mais c'était la grande majorité des entreprises. À côté de l'usine Jagère, il y avait une usine qui s'appelait la Socotra, qui était une entreprise une conserverie de beaucoup de champignons. Enfin, ils ne faisaient pas que des champignons. Mais donc, eux, dans tout ce qui a été l'agriculture, ils ont eu des augmentations de 40%. C'est-à-dire que Gégère, avant 68, avait quand même des salaires supérieurs, à, je dirais, à la moyenne de beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que ça a été un bond phénoménal du pouvoir d'achat. Ensuite, il y a eu... Donc, on a obtenu des primes, par exemple, une prime de Noël, beaucoup aussi une prime de vacances, des congés payés supplémentaires, des congés, par exemple, des jours pour les enfants malades. Vous voyez, des choses qui paraissent peu de choses, mais enfin, on se dit, ça paraît normal, mais non, c'était pas normal. Enfin, c'était pour nous, c'était des choses très importantes. Il y a eu alors, les conditions de travail, c'est aussi important, parce que, bon, il y a le problème des rendements. C'était vraiment très difficile, mais je vois par exemple, vous m'excuserez, je parle aussi de la Socotra qui était à côté, mais les femmes, ce qu'elles demandaient, c'était des bottes, à travailler toute la journée, les pieds dans l'eau, les mains dans l'eau froide, hein, l'hiver, c'était pas de l'eau chaude. Hein. Et donc, demander des bottes, ne serait-ce qu'avoir des bottes et des gants, c'était un grand bond dans les conditions de travail. Ça paraît ridicule, mais c'est comme ça. Il y avait donc par exemple une entreprise à Châtellerault qui était une fonderie à la Safox, c'était des conditions mais dignes du 19e siècle. Donc nous, ce qu'on a demandé, ce qu'on souhaitait, c'était de vivre mieux, un meilleur salaire pour faire vivre la famille, pour payer des études aux enfants aussi, parce que bon, les étudiants ils faisaient grève, mais une fois que, quand ils ont fini, ils sont rentrés à faire des études, ils sont retournés aux études. Mais nous, ça a été très difficile, parce que ça a été, si vous voulez, quand on a fait grève, pendant ce mouvement, ça a été une explosion de liberté, mais c'était la liberté dans l'entreprise, et c'était une liberté face au patron, pouvoir s'exprimer. Et le fait d'avoir obtenu la reconnaissance de l'organisation syndicale dans l'entreprise, ça a été énorme. Parce que c'était pour la première fois dans la loi, était reconnu que les salariés, qu'il y avait des gens qui étaient élus pour les défendre face au patron. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Hélas, il y a, dans beaucoup d'entreprises maintenant, c'est pas encore appliqué. Mais ça a été quand même une chose... très, très importante, le fait de... Donc, notre liberté, c'était face au patron, face à l'exploitation et pouvoir faire vivre mieux avec sa famille. Voilà, je peux peut-être m'arrêter là et puis on pourra revoir après.
Bon, ça a le mérite d'être clair. On va poursuivre l'itinéraire avec M. Clément qui travaillait, on a vu plusieurs vies professionnelles, d'une certaine manière. Vous travailliez au moment de mai 68 à l'entreprise Mescle.
Oui, alors moi, chez Mescle, je suis rentré au mois de février 68. Donc j'avais 3 mois de présence dans l'entreprise. Et forcément, tout de suite, quand je me suis mis en grève, comme tout le monde. Hein. Mais le problème, c'est que j'avais déjà une expérience syndicale, parce que je travaillais dans une autre entreprise où j'étais licencié, parce que la boîte a été fermée, c'était pas dans la région... C'était dans le Loiret, mais j'avais quand même une petite expérience syndicale. Il faut savoir que chez Mers, quand même, les conditions de travail étaient très difficiles. Hein. D'abord, l'entreprise, c'était une entreprise paternaliste. Hein. C'était mes enfants. Le père Mers, c'était mes enfants. Hein. Et les heures supplémentaires à gogo, jusqu'au dimanche matin, payées ou pas payées, hein. Parce que on leur disait aux ouvriers qui acceptaient, tu veux venir dimanche matin? On te donnera une paire de chaussures ou un vêtement à tes enfants. Et puis voilà, et ils n'étaient pas payés, hein, puis ils venaient travailler. Alors c'était vraiment des conditions très difficiles. Alors au niveau de 68, forcément, comme les salaires étaient au ras des pancrètes, vraiment, c'était le SMIG pour la majorité des gens. Et quand il y a eu les accords de Grenelle, que le SMIG a monté de 30%, chez Mersk, je vais vous dire qu'il y en a pas mal qui ont eu des augmentations d'aller de une fourchette, disons, de 10 à 30, même 40%, voire. Hein. C'était important. Hein. Et à ce sujet, je me souviens, la fin des... Enfin, les fêtes de fin d'année, de cette année-là, ben, je vais vous dire qu'on les a bien pensés. Hein, que les salaires... non, mais c'est vrai, hein, c'est un souvenir qui reste dans la mémoire, ça. Alors, donc, le mouvement en lui-même, on est parti à peu près dans la même période que chez GG, je pense, hein, à peu près. Ce qui m'a frappé, moi, c'est que les grévistes de la Manu venaient nous relancer. Il faut savoir que le syndicat, il n'avait qu'un an d'ancienneté. Hein. Le syndicat s'était créé à la suite des wagons de licenciement. Parce que tous les ans, il y avait des licenciements. Et le syndicat s'est créé justement pour défendre les gens qui étaient licenciés. Et il y avait un an qu'il était créé. Hein. Donc les copains, ils n'avaient pas d'expérience. Hein. Ils étaient tout nouveaux. Hein. Voilà. Donc on a manifesté, on était en ville, tout ça. C'était bon. Alors après, par la suite, il y a eu la reconnaissance des sections syndicales dans les entreprises. Il y a eu aussi la création des CE, hein, avec tout ce qui comporte autour, hein, parce que aide aux enfants, tout ça, c'est venu après. Hein. C'est bon.
Ce qui mérite encore d'être bref et très, très clair. Alors là, on s'éloigne presque de mai 68 pour mieux y retourner, puisque Alain Bourguignon, lui, n'était pas à Châtellerault en mai 68, mais arrivant au début des années 70 à Châtellerault, finalement, prend l'héritage de ce mai 68. Et donc
voilà, moi j'étais un héritier. Effectivement, en mai 68, moi j'étais, contrairement à mes deux camarades, en mai 68, j'ai découvert d'abord le mouvement étudiant avant le monde ouvrier. Moi, en 68, j'étais à Paris, j'étais militaire à l'armée, je faisais mon service militaire qui était de 16 mois à l'époque, et il se passait quelque chose à Paris, et un soir, j'ai décidé de ne pas rentrer à la caserne. J'y suis retourné 3 semaines plus tard entre deux gendarmes. Et on m'a envoyé du côté de Perpignan pendant 6 mois, je ne me souviens plus très bien, enfin bref, du côté, je me souviens du nom, c'était à Saint-Laurent de la Salanque, j'entendais la mer à travers les murs. Voilà, enfin bon, j'ai quand même réussi à quitter l'armée, ils ne m'ont pas gardé. J'ai quitté l'armée, j'ai travaillé quelques temps à Paris, mais j'avais pas du tout d'approche syndicale, pas du tout, j'étais pas du tout intéressé par le mouvement syndical à l'époque. Et c'est au moment où je suis descendu à Châtellerault que effectivement, j'ai découvert l'héritage syndical à Châtellerault. Et comme j'étais quelqu'un qui, dans une boîte, voulait absolument faire quelque chose, le meilleur moyen, c'était effectivement, j'ai été contacté donc par la CGT d'abord. Et puis, je me suis mis à militer donc syndicalement. En fait, ma première entreprise, c'était une entreprise de transport. Il n'y avait pas de syndicat. Finalement, c'est quand je rentrais, moi, chez Blaireau-Pegue, une entreprise qui fabriquait du matériel élévateur, qui est devenue Fenwick ensuite. Là, je me suis rendu compte, il y avait un syndicat qui était hyper organisé. Et qui avait une action syndicale assez importante. Tellement importante que je suis rentré en février 73, donc à Blaireau-Pegue à l'époque, et 15 jours plus tard, j'étais en grève pour 3 semaines, avec occupation d'usine, fermeture, chaîne sur les portes, et ainsi de suite, et je me suis retrouvé donc dans les piquets de grève, j'étais pas encore adhérent au syndical à l'époque, et avec chaîne, et etc., et je me suis retrouvé donc la nuit, je me souviens très bien, à faire le piquet de grève, à éviter que les cadres viennent faire un coup de force, et on était là pour empêcher tout coup de force, etc. Et c'était assez, autant je m'en souvienne, c'était assez violent. Je me souviens que la première violence, c'était quand on a mis les chaînes et que le directeur s'est pointé en nous demandant ce qu'on faisait. J'ai dit, tout simplement, on met les chaînes et on vous empêche de rentrer. Enfin, voilà. Mais ce que je me souviens, ce qui m'a frappé, c'était l'enthousiasme et la détermination des gens. Moi, ça me fait dire à l'heure actuelle qu'il y avait eu un travail en amont sur Châtellerault au niveau syndical qui était très important. C'est pas venu comme ça. Ça se sentait. C'était énorme. C'était énorme et vraiment une occupation d'usine hyper sérieuse, organisée, etc. C'était pas le truc fantasque ou n'importe quoi. Donc évidemment, les revendications, c'est à peu près la même chose qu'a dit Annick et Jean-Claude. Ça portait sur les augmentations de salaire, les conditions de travail, etc., etc. Mais ce qui était significatif chez Blaireau, enfin Fenwick, c'était l'encadrement. L'encadrement était un encadrement qui venait du Sérail. Et il était particulièrement... il humiliait les gens. C'était un encadrement qui humiliait les gens. Et moi, je sais que le premier tract que j'ai fait chez Fenwick, c'était un tract dirigé contre l'encadrement. Et ça s'est vérifié dans toute l'histoire, enfin, dans l'histoire de cette période, ça s'est vérifié, puisqu'en 1975, on avait déclenché un mouvement important. Et il y a eu une séquestration de 12 cadres. Je me suis retrouvé en justice à Poitiers avec trois autres de mes collègues au palais de justice de Poitiers. Et là, ce qui a été marquant, ce qui marque aussi, c'était la solidarité qui existait en Châtellerault, parce que la place du palais de justice était noire de monde. Alors on avait écopé d'un mois de prison avec sursis, le jugement était cassé, enfin, etc. C'était la CGC qui nous avait emmenés en justice. C'était pas la direction, c'était la CGC qui nous emmenait, parce que c'était effectivement des cadres qui avaient été séquestrés. Au bout du compte, on a été relaxés pour faire vite. Mais en fait, celle qui a été condamnée, ça a été la direction, parce que... elle n'avait pas assuré la sécurité dans l'entreprise. C'était à elle d'assurer la sécurité d'entreprise que dans le mouvement. Voilà. C'était un mouvement très dur. Hein. Les gens qui ont été séquestrés ont été libérés, si je peux dire, par 20 quarts de CRS, 80 CRS qui sont descendus. Nous, on était en piquet de grève et tout, donc on n'a pas pu... évidemment, on aurait été écrasés comme... Bon, il y avait un contexte hyper violent. Moi, tous les mouvements que j'ai connus chez Blaireau étaient assez violents. Mais je me souviens aussi qu'on se battait comme des chiens, parce que c'était à peu près... moi, je me souviens je faisais mes tracts la nuit. Parce que être militant, à l'époque, je me souviens très bien, c'était jour et nuit. C'est clair. Moi, je faisais mes tracts la nuit. Je savais pas taper à la machine. Je tapais tous mes tracts avec un seul doigt. Et je tirais mes tracts la nuit. Il faut savoir que les entreprises, pour Blaireau, il y avait 600 employés. Donc, c'était un boulot monstre. Hein. C'était très important. Et voilà, on passait... voilà. Donc, mais ce qui m'a marqué aussi... alors que venant de Paris, moi, ayant été influencé par les mouvements maoïstes, anarchistes, et ce qui m'a marqué à Châtellerault, c'était la disponibilité et l'engagement, sans compter des militants communistes d'entreprise. C'était eux qui étaient la CGT. Je sais qu'on moque assez souvent... le film hier d'un maoïste qui montrait effectivement PC, CGT continuellement et avec un certain... Moi, je suis désolé. Ce qui était vraiment important à ce moment-là, c'était des gens qui se battaient véritablement comme des chiens à l'entrée d'entreprise. On s'est battus. Et moi, je me suis battu avec eux. Je leur dois vraiment beaucoup de choses à ces gens-là. Voilà, je peut-être m'arrêter.
enregistrement. Ce aurait été simplement pour savoir concrètement, pour Jean-Claude et Annick, le moment du débrayage. Est-ce que vous pouvez nous raconter le premier moment où, comment ça s'est passé concrètement, le moment où vous êtes entré dans le mouvement?
Il y a 40 ans, alors le moment précis, je ne vous le dirai pas, parce que je sais que j'étais tout au début, j'ai commencé, je vous ai dit, on a commencé, on a fait, il y a eu une grève d'une journée le 20 mai, donc avec tout un tas de revendications qui ont été déposées, et comme le patron n'a pas voulu céder, donc on a démarré la grève le 27, et alors grève avec occupation, c'est-à-dire que c'était les usines qui étaient fermées à l'époque, hein, on avait, quand on dit, donc du 27 mai jusqu'au 10 juin, on a repris le 10 juin, tout était bouclé, on avait bouclé tout. Alors évidemment, vous savez, quand c'est qu'il y a une grève, il y a toujours ceux qui ne veulent pas faire grève. Mais là, comme c'était bouclé, ils étaient rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Hein. Donc, et alors, ce que je voudrais dire, c'est que Alain a parlé tout à l'heure des luttes. Mais nous, notre lutte, c'était pas une lutte violente, c'est une lutte de responsables, de ferme. On était ferme sur nos positions, sur nos actions, mais on faisait surtout attention. Ce qu'on a voulu, et dans toutes les entreprises, c'était protéger notre outil de production.
Bien sûr.
Donc, si on fermait, si on empêchait aussi de rentrer, c'est parce que on sait qu'il y en a qui peuvent être poussés par la direction à rentrer casser, à faire de la casse. Et nous, c'est surtout ce qu'il fallait pas, parce que ça, on ne veut pas que nos mouvements, mais ça c'est général, ça, je dirais que c'est tout temps, hein. On ne veut pas que quand on fait un mouvement, parce que après s'il y a de la casse, après on est dénigré. Donc la valeur d'un mouvement, c'est de protéger notre outil de production et d'être ferme dans nos positions. Et d'ailleurs, il y a les étudiants sont venus à Châtellerault, ils faisaient le tour des boîtes qui étaient fermées, mais on était ferme, on ne voulait surtout pas qu'ils rentrent dans les entreprises, on ne voulait surtout pas qu'ils aient cassé nos... Parce que ça aurait été... Eux, ils seraient rentrés après chez eux, il y avait plus... c'était pas grave. Mais pour nous, alors là, on en aurait entendu pendant un moment. Hein. Donc c'était important de protéger notre outil de production, puis... On était vraiment. Alors, il y avait des manifestations aussi, des manifestations très importantes à Châtellerault. Et alors, il y avait le copain qui était Servol, je ne sais pas, quelqu'un en a parlé, qui était le secrétaire général de l'UL. Donc, c'était des gars qui haranguaient les foules. C'était vraiment. Il y avait un enthousiasme, mais toujours dans le sérieux des revendications. Vous voyez, c'était.
Oui, alors, pour Metz, d'abord, j'ai oublié de le dire, mais c'est une entreprise qui fabriquait du contreplaqué et des porte-planes. C'était dans le bois lourd, ce qu'on appelle. Le mouvement a commencé, d'abord, il faut dire que les grévistes de la Manu venaient nous relancer tous les jours. Déjà, ça commençait à partir. Et puis, c'est un cadre, a fabriqué sur un panneau débrayage chez Metz, mais le cadre il était pour canaliser le mouvement, parce que le lendemain il a demandé aux ouvriers de reprendre le boulot et ça n'a pas marché, parce que ça continuait pendant 15 jours, ça continuait. C'est comme ça que le mouvement a commencé chez Metz.
Je voudrais vous rajouter quelque chose. C'est que il faut se rendre compte que quand on travaille, on a un salaire. Et faire 8 jours de grève. Alors, vous savez, bon, on en fait un jour, mais dans les familles, on compte le soir combien que ça fait d'argent en moins. Et quand on arrive à 8 jours, après, il faut tenir une journée de plus et encore une journée de plus. Donc, quand on dit que, quand Jean-Claude dit qu'il y a des camarades, des entreprises, des gars qui étaient, par exemple, à la Souchata ou à la Manu, des gars qui sont vraiment, qui ont des dizaines et des dizaines d'années de militantisme syndical derrière eux, bon, ils venaient soutenir des filles, j'ai envie de dire, comme chez Gégère, où on était presque, on n'était que des femmes, hein, ou presque que des femmes. Donc, c'était important d'avoir cette solidarité entre les entreprises, entre les militants et puis même simples salariés, hein, mais qui voulaient décrocher des avantages Enfin bon, c'est pour ça qu'on faisait grève. Et puis, on avait besoin de cette solidarité entre toutes les entreprises. Et d'ailleurs, à la fin de la grève, il y a eu le personnel de la manufacture de Châtellerault a fait une collecte. Et dans beaucoup d'entreprises qui ont fait grève, on avait une somme à répartir avec les plus nécessiteux des grévistes. Il y a eu une formidable solidarité dans toutes les entreprises, entre les grévistes, pour soutenir les grévistes, ceux qui avaient osé. Parce qu'il faut dire quand on fait une grève, à la fin, dans les revendications, c'est toujours le paiement des heures de grève. On demande toujours ça. Et en général, beaucoup ont obtenu 50% de grève, des heures payées. Et aussi, dans certaines entreprises, récupérer des heures qui avaient été perdues pour essayer de limiter...
Aussi, c'est que, moi, ce que je retiens après, dans les années 70, par exemple, chez Fenwick, c'est qu'il y avait l'idée, il y avait eu les accords de Grenelle. Et c'est vrai qu'on surfait aussi là-dessus. Il y avait l'idée, quand même, dans la classe ouvrière, qu'on pouvait obtenir en luttant. Ça, c'était important. Je veux dire, le fait de faire grève, c'était ça. C'est de dire, il y avait eu, donc ça voulait dire, il y avait eu des acquis hyper importants en matière de salaire, mais aussi en matière de temps de travail. Moi, je sais que à partir de 73, je me souviens, on réduisait le temps de travail d'une heure, une demi-heure, et ainsi de suite pour arriver aux 40 heures. Il faut dire qu'à cette époque-là, on travaillait, Annick, tu l'as dit tout à l'heure, moi, la première boîte sur Châteauroux que j'ai fait, je travaillais quand même 52 heures par semaine. Ça représentait 6 jours sur 7. Et c'était pas ça chez Fenwick, mais on travaillait quand même le samedi matin. Et du jour où on a pu travailler le samedi du tout, c'était quand même une sacrée victoire. Moi, je me souviens de ça. C'était cette idée que chez les ouvriers, c'était de dire, effectivement, il y avait cette idée qu'en se battant, en faisant grève, on pouvait effectivement obtenir. Et ça, voilà. Alors évidemment, avec des organisations qui existaient, c'est vrai que ça a payé, quoi. C'est clair qu'on déclenchait des mouvements de grève qui étaient très importants. Moi, je me souviens que les mouvements de grève, c'était souvent 70-80%. À l'heure actuelle, quand on dit 35, c'est une victoire. Mais c'était souvent 80% du personnel qui faisait grève quand même. Hein. C'était pas rien. Ça faisait du monde sur 600 personnes. Hein.
Je voulais vous poser une question, madame. Est-ce que le fait de travailler entre femmes a été un lien énorme pour la solidarité entre vous, entre le mouvement féminin? Et vous avez parlé justement que vous étiez content de temps en temps à ce que les autres ouvriers de la Manu, je sais pas s'ils étaient mixtes ou s'ils étaient ou c'était que des hommes. Plusieurs entreprises venaient vous voir, mais est-ce que vous, au point de vue féminin, cela a été une grande force pour cette solidarité et ce maintien de la grève?
Chez Gégère, il y avait un important atelier d'outillage. C'était des hommes. Les hommes étaient à l'outillage et les femmes étaient à la production. Enfin, c'était beaucoup du travail manuel. Et je dirais que toute la force, les femmes, on n'avait pas une habitude de lutte comme ça. Mais l'ambiance dans le travail n'était pas mauvaise. Donc, je ne peux pas dire, ça créait, je ne pense pas que ça beaucoup amélioré la cohésion entre nous. On comptait sur les hommes, si vous voulez. Un homme disait une chose, une femme disait la même chose, mais c'était l'homme qui emmenait la chose, vous voyez. Donc c'était...
Ça pouvait être une libération justement de la femme qui a été vraiment vérifiée dans les années 70, avec 72, avec la... la loi sur l'avortement, après toutes les lois juridiques qui sont encoulées de ça sur le droit de la famille, enfin ça pouvait, voilà.
C'est vrai qu'il y avait tout ça, mais comment je vous dirais, moi je me rappelle qu'on allait, c'est-à-dire qu'on a, il y a eu tout. On revendiquait pour nos revendications salariales et tout ça, et les revendications plus personnelles, je dirais, hein, c'était à côté, quoi. C'était parce que c'est vrai qu'on entendait les étudiants, bon, ce qu'ils voulaient, la liberté, non, mais la liberté de faire ce qu'on voulait, enfin bon, entre les jeunes. C'est, chez nous, c'était pas ça. Non, mais faut dire que les jeunes étudiants, c'était deux mondes séparés. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, enfin oui, je pense qu'on, chez Gégère, on s'entendait bien, même entre les femmes. Mais la force, c'était chez les outilleurs. C'est eux qui démarraient toutes les luttes. Et la preuve, c'est que très peu de temps après, parce que je crois que c'est en 1974, ils ont séparé l'atelier outillage, c'est-à-dire qu'ils l'ont vendu de l'usine de production. Et évidemment, ça affaiblit toutes les luttes, quoi. Ça affaiblit tout le mouvement. Alors après, bah, les femmes, on a pris, on était déjà. Mais vous savez, quand on est des jeunes militants, ça s'apprend, hein, le métier de syndicaliste, hein, face à des directions. C'était quand même un grand groupe. À l'époque, Gégère, c'était 6000 salariés en France. Donc, on a pris les choses en main. Puis bon, voilà, on a. Mais c'est vrai que ça. On comptait beaucoup sur les hommes, quoi.
Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, par rapport à ce qu'a dit Annick, là, effectivement, mais quand même, il faut quand même savoir que 68, ça a quand même été la fin d'une époque, quand même. Et ça a quand même donné pas mal de liberté, quand même, y compris les femmes. Il faut bien comprendre ça. Par contre, par rapport au mouvement, il y avait les piquets de grève qui étaient organisés, mais aussi il y avait les rondes dans les ateliers, comme dit Annick, pour protéger l'outil de travail. Parce qu'on craignait qu'il y avait des saboteurs qui auraient saboté l'outil de travail pour le faire porter sur le dos des grévistes.
Le patron.
Et moi, j'ai participé à ces rondes, mais on y allait avec le gouvernement. Hein. On avait le menton dans le... Ah, oui. C'est sûr. Hein.
Il faut les faire attention, c'est vrai.
Bah, bien sûr. Hein.
Oui, pour répondre un peu à votre question, il n'y a pas eu de... Bon, ça, c'est pas né d'une génération spontanée, il n'y a pas eu de mouvement spontané. Il y a eu au départ, d'ailleurs, beaucoup d'attentisme dans certaines boîtes, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et puis c'est vrai que lorsqu'il y avait dans l'environnement une boîte qui était déjà fortement mobilisée, eh ben, ils venaient quand même et puis disaient, ben, nous laissez pas, faut vous lancer. Et puis on forçait un peu la main aussi de temps en temps, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le 13 mai 68, il y a eu une grève générale qui a été fortement suivie et qui a posé des mouvements, des mots d'ordre revendicatif très forts. Et c'est surtout à partir du 13 mai 68 que le mouvement s'est généralisé comme une boule de neige. Quoi. Mais bon, c'est pas parti comme ça, même début 68. Hein.
Quelques chiffres globaux sur Châtellerault. Il y avait 17 entreprises qui étaient occupées. 17. Y compris des toutes petites. Et effectivement, dans ces 17 entreprises, le premier travail, c'était de fermer les portes. Pour les raisons qui ont été indiquées. Elles étaient fermées et bien fermées. De telle sorte que personne puisse, y compris les forces patronales ou l'encadrement, les ouvrir. Il y avait un aspect, disons, de lutte physique, y compris, et de sécurité. Et je vais vous raconter une anecdote qui est tout à fait significative. Vous posez la question, comment une grève démarre? Il faut vous dire que tous les matins, avec Servol, tu l'évoquais tout à l'heure, c'était le secrétaire du non-local. Moi, j'étais, comme j'ai dit hier, secrétaire départemental du Parti communiste français. Donc, on faisait le tour. On allait voir ce qui se passait dans les entreprises. on vérifiait, n'est-ce pas, si tout allait bien. Parce que, notamment à la manufacture d'armes de Châtellerault, il y avait de quoi armer deux divisions. Ah oui, il y avait des stocks d'armes énormes, puisqu'on fabriquait les pistolets mitrailleurs et les armes automatiques. Et j'aime mieux vous dire que pour rentrer à la manufacture, les cadres syndicaux et les salariés, eh bien, on avait pris toutes les précautions, y compris au moment où il y a eu les batailles politiques sur l'idée l'Élysée est à prendre, etc., etc. Et où De Gaulle a menacé de faire intervenir l'armée quand il a été voir Massieu en Allemagne. Donc la question se posait. Et la question se posait, n'est-ce pas, de nous avons de quoi armer deux bataillons. Peut-être même davantage. Donc nous avions nous mettions un soin particulier à veiller sur cette question spécifique de Châtellerault, l'existence d'une manufacture d'armes avec des stocks d'armes considérables. Et j'aime mieux vous dire que de ce point de vue, il y avait un esprit de responsabilité et d'organisation qui était absolument remarquable. Alors comment ça se passait, pour compléter ce que dit Annick ? Je vais parler de la Socotra. C'était l'entreprise de femmes qui était juste à côté de chez Gégère. Un matin, Serval, j'arrive à l'union locale et il me dit « Ah, ça y est, les filles de... Enfin, les femmes, on disait les filles à l'époque. Hein, je ne sais pas pourquoi. Même s'ils avaient 50 ans, on disait les filles. Voilà. Bon. Les filles de la Socotra sont rassemblées. On y va. On s'amène tous les deux. Et savez-vous quelle était la revendication sur laquelle elles se mettaient en grève ? Elles étaient, comme disait Annick, à fabriquer des conserves. Donc, toute la journée dans la vapeur. Tous les jours, deux ou trois femmes tombaient dans les pommes. C'était le rythme quotidien. Et elles étaient transportées à ce moment-là dans un local, un peu plus aéré, sur une échelle avec une couverture. On mettait une couverture sur une échelle, on transportait dans un local un peu plus frais. Et elles se sont mises en grève avec une seule revendication. On veut un brancard. Alors, on est arrivé, n'est-ce pas, et ils étaient là, 200 à peu près, là, dans l'atelier à côté de chez vous. Alors bon, on commence à parler, etc. Non. C'était surtout Serval, d'ailleurs, qui était secrétaire du L, qui parlait, mais enfin bon. Et on leur dit, mais écoutez, à l'époque, il y avait peut-être déjà 13 entreprises. Bon, il y a 13 entreprises occupées. Et avec Serval, en général, on s'arrangeait pour mettre un petit drapeau rouge sur les entreprises qui étaient occupées. On avait mis notre petit drapeau rouge, n'est-ce pas, sur l'entreprise occupée. Et puis, on leur dit, le rapport de force vous permet d'aller beaucoup plus loin. Allez, on y va, on fait le cahier de revendications. Et on a établi tout le cahier de revendications sur les salaires, sur les conditions de travail, etc., etc. On a passé une heure avec elles pour établir le cahier de revendications. Voilà. Et après, la lutte s'est poursuivie. Si je raconte ça, c'est parce que comme moi, l'après-midi, après avoir fait la matinée à Châtellerault, hein, puisque on était tous ensemble, jeune prof, moi j'étais pas dans les entreprises, jeune prof, je passais à la fac à Poitiers. Et l'après-midi, j'avais l'Assemblée Générale, et j'étais dans la direction, disons, du comité de lutte des étudiants, puisque j'étais en même temps à la fac. Et nous nous réunissions dans un amphi, l'amphi Descartes, à la fac de lettres, qu'on avait rebaptisé, d'ailleurs je l'ai dit l'autre jour, mais je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on avait baptisé, on a eu une grande pancarte à la place de Descartes, on avait mis Vladimir Ilitch Lénine. Voilà. Et les étudiants discutaient fort naturellement, et nous discutions avec eux. Comment est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, face aux menaces d'intervention armée de De Gaulle ? Et l'Élysée est à prendre, etc., etc., il faut y aller. Le pouvoir est... Alors, je leur dis, écoutez, mes chers amis, hein, écoutez. Moi, ce matin, j'étais chez les filles de la Socotra. Mais ce n'est pas la question. Vous vous gourrez. Le problème est beaucoup plus complexe. Il y a des niveaux différents. Il y en a qui sont ici, mais c'est sur des problèmes civilisationnels, qui sont là, effectivement, sur le problème du féminisme, qui sont là sur les problèmes, etc. Mais la réalité du mouvement des 11 millions de grévistes à un moment donné en France, elle était extrêmement diversifiée. Et c'était là-dessus, n'est-ce pas, qu'on sentait bien que De Gaulle et les forces réactionnaires du pouvoir, n'est-ce pas, misaient pour éventuellement
remettre en cause ce mouvement formidable. Ce mouvement formidable, cette révolution, effectivement, que sans doute la France n'a pas connue depuis, depuis 89 ou 48, ou j'en sais rien. On va dire, attention, attention, et je racontais l'histoire. Ils étaient là. Ça les a fait beaucoup réfléchir, quand même, cette anecdote, en disant, voilà ce matin ce qui s'est passé à la Socotra. Et c'était ça les débats que nous avions ici à Poitiers. Et je trouve que cette anecdote est tout à fait significative, puisque la grande question qui se posait, c'était finalement le lien entre ce mouvement de 11 millions de grévistes et d'autre part ce mouvement étudiant qui est universitaire, etc., qui posait des tas de problèmes de société. Et la question qui était posée, n'est-ce pas, pour nous qui étions au cœur de tout cela, à la fois dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement étudiant, c'était d'arriver à faire en sorte que ça se rejoigne. Mais ce n'était pas simple. C'était pas simple. Hein. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, les questions qui se posaient en 68, lorsqu'effectivement les étudiants se présentaient, ils ont été virés de chez Renault, comme, non pas virés par animosité, mais simplement parce que c'était deux mondes différents et les préoccupations, au départ, n'étaient pas les mêmes. Et tout le problème que nous avions, nous, disons, les dirigeants de la CGT ou les dirigeants communistes, c'était de créer les conditions, n'est-ce pas, pour que face à l'offensive du pouvoir qu'on sentait venir, Dès le 17 mai, on sent qu'on commence à sentir. On était réunis, nous, les communistes, en intrait, n'est-ce pas, en Assemblée générale. Et je me souviens d'une camarade qui s'appelait Denise Gaveau, dont la femme était un dirigeant syndical de la manufacture. Il a dit, attention, dans le fond de la population, les choses sont en train de bouger négativement. Et effectivement, quelques temps après, aux élections, c'est le résultat, n'est-ce pas, la France bascule, n'est-ce pas, en donnant une énorme majorité écrasante. Et je donne cette anecdote, est très significative, finalement, du problème posé en mai 68, c'est-à-dire arriver à créer les conditions pour que ces deux mouvements se rejoignent et fassent front ensemble. Je m'excuse de cette anecdote, mais elle complète, me semble-t-il, tout à fait ce que vous avez dit.
Il y a d'autres questions dans la salle, donc on va essayer de répartir le temps.
Savoir, est-ce qu'il y a eu des coordinations entre les usines en grève, comme ça a pu exister par la suite dans un certain nombre d'endroits, et est-ce que la coordination a été faite uniquement par le responsable d'une union locale CGT, ou est-ce qu'il y avait d'autres moyens, par contact personnel, etc.
Il y a fait un comité, effectivement, il y a eu un comité qui a été créé au niveau de Châtellerault, qui a regroupé toutes les organisations syndicales. Il y avait la CGT, la CFDT, FO, et je ne me rappelle plus s'il n'y a pas une troisième, une autre organisation. Je l'ai. Oui, certainement les enseignants, voilà. Oui, il y avait un comité de coordination. Parce que bon, on essayait de. On faisait les grèves, enfin, c'était. Tout le monde était dans le mouvement et on essayait de garder l'unité face aux directions. Pour négocier, fallait être ferme, il fallait être ensemble pour négocier, parce que ça se passait dans chaque entreprise, les négociations. Il y a eu des négociations au niveau national, mais il y a eu aussi les négociations au niveau par entreprise. Parce qu'au niveau national, c'était que des choses, je dirais, générales. Le SMIC, enfin, des choses comme ça. Mais sur des conditions de travail ou sur des choses plus spécifiques, ou des primes ou des choses comme ça, c'était directement dans l'entreprise, les négociations.
Je me permets juste, parce que j'ai le micro. Est-ce que vous pourriez nous raconter aussi, l'un et l'autre, concrètement, une journée de grève occupée, enfin, une journée dans l'usine occupée, quoi. Ça marchait comment? Est-ce que vous y étiez 24 heures sur 24? Qu'est-ce qui se passait?
Pour moi, il y avait des rondes, oui, on tournait, hein, c'était pas tout le monde d'un seul coup. Il y avait des rassemblements tous les matins, les responsables syndicaux faisaient le point de ce qui s'était passé la veille, et puis après, on désignait les camarades qui allaient tenir les piquets de grève, et puis les autres, soit ils jouaient au boule, soit ils dansaient, parce qu'il y a le côté effectif aussi, il faut parler. Dans la cantine, il y avait un bal. Il commençait, je ne sais plus moi à quelle heure il commençait, mais et puis c'était toute la soirée comme ça. Hein. Et il y a même des couples qui sont formés. Hein.
Ce que je voudrais.
Non, mais attends, oui, il y avait quand même des femmes qui travaillaient chez Metz quand même. Hein. Ils n'étaient pas nombreuses, mais il y en avait quand même.
Ce que je voudrais dire, c'est que, effectivement, le côté... Ce qui était important aussi dans ces mouvements de grève et de piquets de grève, c'était aussi, au-delà des revendications de salaire, de conditions de travail, etc., c'était aussi une lutte pour la dignité. Aussi, beaucoup de gens, c'est vrai que quand ils étaient à longueur de journée harangués ou sous pression, etc., c'est vrai que c'était une lutte pour la dignité. Moi, je sais que sur les piquets de grève, moi, ça m'est arrivé de coucher 8 jours à l'usine. Hein, ça se passait, on faisait des rondes. C'était organisé, il y avait des gens désignés pour faire des rondes tout le long, pour regarder là où les chaînes étaient mises, il n'y avait rien qui bougeait. C'est vrai qu'on surveillait tout, c'était vachement organisé, hein, c'est clair. Il y avait même un enthousiasme pour le faire. Hein, c'est vrai que, des fois, effectivement, quand la lutte était longue, quand au bout d'une semaine, ça nous arrivait de trouver moins de gens pour le faire, parce que c'est hyper fatigant. Hein, je veux dire, t'es complètement défoncé, hein. C'est vraiment un truc de fou, mais c'est vrai que c'était organisé. Moi, c'est vrai que je suis resté, je crois que c'est même plus long, je crois que c'est, je suis couché 8-10 jours à l'usine, et voilà.
Mais on a amené à manger, ça commençait le matin, voilà. Et puis bon, c'était vraiment dans l'amitié, la solidarité, enfin bon, c'était vraiment sympa, quoi. C'était l'enthousiasme, on était quand même, c'était l'enthousiasme, c'était vraiment comme un bouchon qui explose, et puis bon, on se sentait plus libre, on se sentait, bon...
Ça permettait aux gens de se connaître aussi. Je veux dire, ils travaillaient ensemble, ils se connaissaient, enfin, je veux dire, le rapport humain... moi, je me souviens, on montait des appareils élévateurs. Alors, nous, la chaîne, c'était pas du tout le style du film de Charlot, les temps modernes, hein, la chaîne. C'était chacun montait son appareil élévateur. Et au milieu, dans ce que j'appelais le mirador, il y avait le contremaître. Alors, chacun montait son appareil élévateur. Évidemment, celui qui allait moins vite que les autres, évidemment, il était tout de suite... Donc, ça fonctionnait comme ça. C'était un truc assez fou, quoi. Et évidemment, dans les mouvements de grève, quand tout était arrêté, c'est vrai que les gens parlaient, échangeaient, il y avait un enthousiasme, les gens se connaissaient, etc. Il y avait vraiment quelque chose d'important qui se passait, quoi. C'était vraiment ça communiquait vachement, quoi. Et c'était super, quoi. C'est vrai qu'il y avait un côté festif, ouais, où tout le monde amenait le casse-croûte, voire la bouteille de blanc, etc. Enfin, moi, c'était très convivial, ouais.
J'ai juste posé une question. Enfin, justement, est-ce qu'il y a un changement pour ceux qui ont vécu les grèves de mai 68? Parce que c'est vrai que, moi, dans des entretiens que j'ai pu mener, on voit une forme de continuité. Finalement, il y a un mai 68 qui a un peu lance sur Châtellerault, mais c'est une habitude de combativité qui s'était commencé à structurer dans les années 60. Mais c'est vrai que dans les années 70, on retrouve, s'il n'y a pas mimétisme, mais finalement, on retrouve presque une habitude, il y a des formes de rythme, des rites, pardon, pendant les grèves, qui se mettent en place, qui existaient très, très peu auparavant. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez perçu, vous, à ce moment-là? Parce que dans ces débuts des années 70, on sent que finalement, on invente un petit peu une autre forme de lutter sur Châtellerault. Ou est-ce que ça semble évident?
Moi, ce que je me souviens, c'était quand même la radicalité des mouvements, quoi. C'était assez radical, quand même. Hein. Ça plaisantait pas. Hein. Quand ils se mettaient en grève, c'était pas pour plaisanter, c'était pour obtenir. Et donc... c'était vachement... Moi, je trouvais... quand je disais tout à l'heure que c'était violent, moi, c'est vrai que c'était... violent, c'était dur. Hein, c'était des mouvements très, très durs. Bon, même si, effectivement, on buvait le coup et les gens se connaissaient, mais c'était vraiment très, très dur. Hein, le mouvement était radical. Je vous parlais de la séquestration. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Ça explique le rapport avec la hiérarchie et les cadres. Ça s'est passé. Il y avait déjà 15 jours qu'on faisait des assemblées générales continuellement. Et il y avait de plus en plus de monde aux assemblées générales qu'on faisait les soirs après le travail. Hein. Donc, les gens, quand ils débauchaient, en général, c'était pour se tirer et rentrer chez eux, ce qui était tout à fait compréhensible. Or, depuis une dizaine de jours, les gens se déplaçaient après le boulot au local syndical et de plus en plus, il en venait de plus en plus. Le mouvement se déclenche un matin. Alors là, 90% des gens ont vraiment une colère sur des problèmes de salaire et encore des conditions de travail, parce que c'était tout le temps ça, en fait. Hein. Et nous, il se trouve, tout le monde se dirige vers le local syndical, et il se trouve que la salle de réunion était juste à côté de du local syndical. Et il se trouve qu'il y avait 12 cadres qui étaient là en réunion. Nous, on avait établi le cahier de revendication, on l'emmène à la direction, on emmène le cahier de revendication à la direction, tous les délégués syndicaux, CFDT, CGT, on revient, les mecs, ils avaient foutu le madrier sur les portes, enfermé les cadres, et voilà. Donc, c'était... Et pas question d'y toucher. Moi, je sais que... Bon, j'avais eu un différend avec l'Aumont à ce moment-là, parce que l'Aumont allait me dire, non, il faut que tu prennes la parole, il faut que tu prennes la parole, il faut qu'on arrête ça, etc. Je lui dis, écoute, moi... Non, oui. Ouais, c'était l'Union... J'ai dit, moi, je ne prendrai pas la parole, parce que, d'une part, je suis solidaire du mouvement, et puis, etc. Mais si toi, tu veux la prendre, tu la prends. Il ne l'a pas prise. Il ne l'a pas prise, parce que les mecs, ils étaient vraiment remontés. Ce n'était pas le moment. On serait fait casser la gueule, tout simplement. Hein. Il faut le dire. C'est en sens ça que c'était quand même... ils y tenaient. Alors, voilà, c'était...
Oui. On a peu de temps.
Oui, j'ai une question pour essayer de comprendre, essayer peut-être de resituer un petit peu le contexte de cette époque-là et de comprendre un peu la vigueur et la lame de fond en fait qui a permis d'obtenir tous les acquis sociaux du Grenelle, etc. En fait, la libération venait de se faire depuis seulement une vingtaine d'années. Si on essaie de se replonger un petit peu dans ce que pouvait être le quotidien d'une grande majorité de la population à ce moment-là, essayons là de penser qu'il y a 20 ans, là, les années 80, c'est quand même hier, quoi. C'est tout juste, c'est encore très frais, quoi. Est-ce que le mouvement de 68 ne pouvait pas être issu d'une sorte de libération, de nécessité de libération et de vigueur qui faisait suite au nazisme et à ces histoires qui avaient marqué dans les chairs profondément? Et donc, qui expliquait qu'il fallait, face à toucher, non pas seulement les étudiants, mais aussi les gens qui avaient la quarantaine, et donc le monde du travail, quoi. Et là, l'adhésion a été forte et a balayé sur des tranches d'âge très, très, très nombreuses, il me semble. Et bon, comment est-ce que vous pouvez nous raconter le vécu dans les entreprises de l'histoire, de votre histoire personnelle par rapport à la guerre ?
Je suis pas sûre que ça vienne... de la guerre. On était dans ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, c'est-à-dire qu'on se rendait compte de notre exploitation. Ça, on en avait conscience. Il y avait encore beaucoup d'entreprises, comme disait le copain tout à l'heure, qui étaient enfin, des entreprises dont c'était le patron qui était le propriétaire de l'entreprise. Il y avait encore beaucoup ça aussi. Et puis, il y avait les grandes entreprises comme Gégère, comme Hutchinson, des grandes entreprises de production. Et on savait l'exploitation qu'on avait. Parce que je pense qu'il y a eu les salaires... Oui, oui, c'est bien ça le problème. Ça, je suis bien d'accord avec vous.
Oui. Il y a un élan qui était différent.
Je pense que je parle pour Châtellerault, mais je vous dis ce que j'en pense moi. Hein. Je pense que Châtellerault, on était la ville industrielle. Bon, on a eu la Manu, parce que la Manu, 7200 salariés en début d'année, au début du 20e, je crois que c'est 1915 ou 1914. Donc c'était énorme. Donc on a eu, il s'est passé quand même tout un tas de choses pendant un siècle. Il y a eu des luttes, il y a eu des grèves, parce qu'on parle de 68, mais 36 aussi c'était important. 45, ça a été important aussi. Il y a eu toute une lutte. Enfin bon, il y a toute.
Mouvement de 53 qu'on oublie aussi souvent.
Il y a eu très puissant. Voilà. Je pense que ça a été un suivi. Il y avait comme une culture, une histoire des luttes. Enfin, une histoire. Bon, alors ça explose tous les 20 ans comme ça. Bon, mais là, en ce moment, on attend encore. Mais bon, hein, 40 ans après, on attend. On va peut-être bientôt exploser, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est... Mais là, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il y, a, il y avait... Le salariat, il était beaucoup ouvrier. Ouvrier ou ce qu'on appelait des professionnels. Maintenant, ben, il y a beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs. Et c'est tout à fait deux mondes séparés. Enfin, c'est pas... Même si les ingénieurs et techniciens sont exploités, je dirais que leurs conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'à l'époque, quand on était au rendement. Parce qu'il faut se rendre compte quand même, dans certaines entreprises, je ne parle pas Gégère parce qu'on n'était pas les pires, mais il y avait des entreprises, je connais une entreprise, je vous assure que c'est vrai, à Châtellerault, dans une entreprise, une fonderie, une petite fonderie, pour aller faire pipi, c'était des hommes. Ils avaient une boîte de conserve au pied de leur bécane. C'était ça les conditions de travail en 68. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Donc, il y avait dans des entreprises, vous avez parlé de la Socotra, mais il y avait des entreprises, les conditions de travail, il fallait voir. Hein. Alors là, maintenant, ça s'est modernisé. Il y a eu une accélération de l'exploitation, enfin de la productivité maintenant. Bon, bah, pourquoi est-ce que les gens ne se battent pas pour avoir plus de pouvoir d'achat? Ça, c'est encore une autre chose.
Moi, jusqu'à il y a 2 ans, puisque je ne travaille plus. Jusqu'il y a 2 ans, j'ai travaillé pendant 22 ans dans une entreprise de l'agroalimentaire, de la métallurgie. Je suis passé à l'agroalimentaire. Et je suis passé d'une entreprise où il n'y avait que du personnel masculin. Et là, la majorité du personnel, c'est du personnel féminin. Le problème des conditions de travail dans cette entreprise, pour ne pas la citer, Marie Surgelée à Mirebeau, c'est déplorable. Les filles... Enfin bon, tu expliquais tout à l'heure, je ne sais pas qui expliquait, qu'il y avait des filles qui tombaient, 3 ou 4 filles qui tombaient par jour par terre. C'est la réalité là-bas. Les accidents du travail chez Marie Surgelée, c'est énorme. Les tendinites, les problèmes de dos, les problèmes de cervicales, voilà, sont terribles. Terribles. Et moi... Pour expliquer pourquoi ça ne se bat pas, moi j'ai pour l'habitude de dire qu'on se bat plus facilement avec le ventre plein qu'avec le ventre vide. Oui. C'est comme on disait en début 1974, premier choc pétrolier, quand les premiers licenciements ont commencé à exister. Les gens disaient, je me souviens très bien, quand il y aura 1 million de chômeurs, ça sera la révolution. Il y a eu 1 million, ça n'a pas été la révolution. Il y en a eu 2 millions, c'est pas la révolution. Et moins on en a, et moins on se bat. C'est actuellement le problème du syndicalisme et le problème dans les entreprises pour arriver à se battre, c'est hyper difficile. C'est de plus en plus difficile. Moi, les conditions pour lutter actuellement sont... Je veux pas du tout dire que l'époque où on l'a connue, mais j'ai connu cette époque où effectivement je me suis reposé sur un acquis syndical, de lutte, etc. Or, dans l'agroalimentaire, c'est pas du tout ça. C'est complètement autre chose. Hein. Il n'y a pas d'histoire syndicale à proprement dite, et parce que c'était des conventions de boulangers, etc., de petits patrons, etc., qui se retrouvaient en entreprise. Donc il n'y avait pas cette culture syndicale, cette culture de lutte. Et ils font ce qu'ils veulent. Et en plus, moi, je pense qu'actuellement, effectivement, on a évoqué tout à l'heure les entreprises à caractère paternaliste. Je pense qu'actuellement, le niveau de lutte pour lutter contre le patronat actuel, le patronat a mis la barre très haut. Voilà. Pour arriver à comprendre maintenant les mécanismes de propagande à l'intérieur de l'entreprise, les mécanismes d'exploitation, il faut être vraiment, vraiment, je crois que c'est... Et là, je pense que le syndicalisme a un rôle important à jouer. Je pense que tout est à réinventer. Je pense que l'éducation syndicale... doit porter le combat à un niveau tel que je pense que... Et moi, je dis que c'est hyper important de se syndiquer. C'est hyper important. C'est un outil, le syndicat. On s'en fout. Le problème des idéologies, etc. OK, d'accord, c'est important. Mais le syndicat est un outil. C'est avant tout un outil. Et c'est important. Et il faut s'en servir.
Je suis obligé de... Voilà. Je considère aussi que le syndicalisme est un outil sérieux. On nous reste à peine 5 vraies minutes pour terminer. Et puis il y a 2 questions, je suis vraiment désolé de vous couper, mais c'est vrai qu'on a eu un temps restreint.
Donc il y a deux questions.
Je voulais juste revenir sur une chose, c'est que j'étais. Vous disiez que le rapport avec le mouvement étudiant, enfin a priori, il n'y en avait pas du tout. C'est-à-dire que les étudiants venaient, vous les rostiez. Comment ça se passait? Le monsieur évoquait le fait qu'il faisait une liaison, mais donc il n'y a pas eu, puisqu'il se déplaçait d'un point ouvrier à un point étudiant, mais la liaison n'était pas effectuée. Il n'y a pas eu des gens dans les structures ouvrières, donc la coordination de lutte ouvrière ou quoi que ce soit, qui avaient des envies d'aller voir les étudiants, de voir ce qui se passait. Est-ce que vous parliez des étudiants qui venaient vous voir, ou est-ce que les ouvriers allaient aussi des échanges qui pouvaient être effectués hors des cadres du...
Écoutez, nous sommes de Châtellerault, vous nous excuserez. Il y a peut-être, ça s'est peut-être passé à Poitiers, mais ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Hein?
Non, mais même, je veux dire, même avec...
Et puis il y avait l'idée
aussi que, je l'ai vécu aussi fortement chez Fenwick, hein, l'idée que les étudiants, ils sont bien gentils, mais ce sont les futurs exploiteurs de demain, c'est les futurs cadres dans l'entreprise. Et ça, il y avait cette idée. Moi, je me souviens des gens, il y avait cette idée.
Parce qu'il y avait bien quand même la conscience chez les ouvriers que les étudiants n'étaient pas... Si eux aussi ils se mobilisaient, ils allaient les voir, et c'était pas forcément des ennemis, quoi que ce soit, mais le fait que ça soit des ennemis de classe.
J'avoue que j'ai pas compris encore leurs revendications aux étudiants.
Le problème, c'est.
D'où venait la conscience de vouloir protéger l'outil de production?
Bien sûr.
Non, mais la conscience de la protection de l'outil de production, ça je comprends bien. Mais comment est arrivé le fait? Je comprends bien la protection de l'outil de production, mais pourquoi? Alors, comment est venue la considération que l'étudiant est un ennemi?
S'il vous plaît,
Pourquoi les ouvriers pensaient que
le débat, on pourra l'avoir. On a une petite demi-heure entre ici et la chapelle des Gaillards pour discuter pendant la rue. Non, juste pour vu qu'on a les quelques personnes quand même à la tribune, profiter d'eux. Donc il y avait deux questions. Je ne sais pas si Monsieur Fronteil, vous avez une question précise ou. Mais vraiment en une minute, en une 30 secondes.
Il y a une dame aussi. Fondamentalement, la différence entre l'île d'aujourd'hui et d'hier, c'est qu'hier, lorsqu'on luttait, on avait un patron face à nous. Et aujourd'hui, j'étais salarié, je manifestais comme j'ai manifesté en mai 68 avec les gens de la STECMA dans la baie de Châtellerault. Sauf que le problème qui est posé, c'est le rapport entre le dollar et l'euro. Mmh. C'est ça la question qui est au cœur de la manifestation de ce matin. C'est-à-dire que les questions changent de nature et par conséquent, les luttes ne sont pas comme celles qu'on menait en 68 où en face de toi, tu avais le père.
Victor
qui te disait je te donne à la fin du mois tiens trois tabliers pour tes enfants. Discutais avec un patron. Aujourd'hui c'est pas le patron, c'est des problèmes qui sont en face de nous et les luttes ont changé de nature et de caractère.
C'est quand même arrivé très vite, Paul, parce que c'est arrivé très vite parce que moi je me souviens que déjà en 74-75 déjà on nous disait que le patron il était dans un avion, etc.
Il y a une personne là-bas, et puis deux questions. Une dernière question, et puis on donnera le mot de la fin.
Ouais, je vais aller assez vite. Voulais juste faire une remarque en fait sur justement l'absence ou le syndicalisme est vraiment très très en baisse. Et si on regarde le rapport de force, notamment au CHU, où il y a quand même 5000 personnes, donc c'est pas une question de masse là en l'occurrence. Or, je n'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose, et c'est pourtant pas faute de problèmes de conditions de travail. Et d'autre part, il y a certains secteurs professionnels qui m'inquiètent par leur absence de représentation, et je pense particulièrement à l'aide à domicile, où ça ne bouge toujours pas non plus, et, alors que le discours ambiant, c'est quand même les métiers d'avenir, etc. Donc... avec une précarisation énorme, beaucoup de temps partiel, et puis beaucoup de femmes évidemment concernées là aussi encore.
Je vous laisse tous les trois un mot de
pour conclure en
je vais répondre à la dame, c'est la moindre des choses.
Oui, oui.
Oui, ben, je pense que c'est... On a toujours l'impression que les gens attendent des organisations syndicales. Une organisation syndicale, c'est simplement des salariés qui ont des problèmes et qui se regroupent pour se défendre. Donc, c'est vrai que vous avez peut-être besoin d'aide ou de conseils dans un métier pour s'organiser, comme vous parlez du CHU, c'est aux salariés de s'organiser, puis d'aller rencontrer les organisations syndicales, celles que vous souhaitez, et pour défendre vos revendications, quoi. C'est ça, c'est que c'est pas à 10 grands militants qui vont c'est, voyez, ça doit monter du haut, du bas vers le haut aussi. Voilà. C'est une conjugaison.
Les augmentations de salaire, elles ne sont pas plus ou moins de la base. C'est aussi un contexte national.
Oui, oui, oui.
Un mot, monsieur Clément, pour...
Oui, un petit mot, simplement que... je pense que le débat a été quand même assez riche. Hein. Je pense que, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions comme il faut, j'en sais rien. Mais je pense qu'il n'y a pas de conclusion à faire, hein, parce que c'est une continuité, hein, parce que le combat continue toujours. Hein. Et la preuve, c'est que je suis encore là. Hein.
Voilà.
Malgré que je suis en retraite depuis 12 ans. Hein. Puis je suis encore là. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est peut-être qu'il faut réfléchir sur la notion de partenaires sociaux. Je pense que le partenaire social a tendance à gommer l'appartenance de classe, la lutte de classe. Et actuellement, on nous bassine avec les partenaires sociaux. Moi, je suis désolé, je ne me suis jamais senti partenaire de mon patron. Donc, il y a cette notion qu'il faut réhabiliter, cette notion de classe. C'est hyper important. Donc, effectivement, ce sont le syndicat, ce sont des salariés. Ce ne sont pas des spécialistes comme ça qui ont pris le pouvoir. Ce sont des salariés qui s'organisent pour se battre. Ça me semble que c'est là qu'il y a vraiment à construire et à éclaircir les choses, quoi, je pense. Voilà.
En tout cas, moi, je voulais dire, je crois, au nom des organisateurs tout ça, qui sont là, je voulais vous remercier tous les quatre, et puis parce que on voit qu'il n'y a pas besoin d'être 70 pour faire un débat tout à fait passionnant, très chaud en plus. Hein, et en même temps, ce que je trouve vraiment bien, c'est de finir ce festival sur mai 68, sur aujourd'hui, quoi, parce que on l'a pas fait, mais pendant les 3 jours, on avait tous cette idée-là quand même en tête. Il y avait plein de jeunes qu'on n'avait jamais vus dans les dernières éditions du festival qui étaient là, et je pense qu'ils pensaient la même chose, eux aussi, ils pensaient à ça. Donc de finir, que ce soit vous précisément, les témoins de 68, et dont une partie est en retraite maintenant, qui pensaient à demain et à la suite de mai 68 demain, je trouve que c'est une très belle conclusion de ce festival. Et puis, on peut dire au festival de l'année prochaine, pour la 4e édition. Merci.
Je voudrais simplement vous faire une invitation, c'est-à-dire qu'on va organiser, alors, puisque c'est les 40 ans de mai 68, et donc c'est aussi les 40 ans de la fermeture de la Manu de Châtellerault, donc il va y avoir des expositions à Poitiers et à Châtellerault, donc l'Union locale CGT vous invite à venir, vous serez au 1er mai. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit 1er mai? Oui, au 1er mai.
Le lieu, tu veux qu'on le donne?
Ah ben non.